vous avez échangé donc la semaine dernière avec notre notaire sur le sujet de la copropriété. L'objectif effectivement de cette réunion, effectivement, c'était de se déterminer un petit peu bon, sur l'avancement en perspective de l'établissement de l'état descriptif de division de l'immeuble et du règlement de copropriété qui servira demain donc à la gestion par le syndic, bénévole ou professionnel selon votre choix, donc qui administrera donc cet immeuble. Donc voilà, donc alors, je sais pas, peut-être vous laisser introduire de votre côté, Monsieur Gernèse, par rapport à ça, puisque bon là, moi je n'étant pas présent, je dirais, la semaine dernière, donc il y avait ma collaboratrice Carina Garcia donc qui était présente sur le plan juridique, et puis donc Denis Brochard, hein, avec le notaire, hein, donc qui m'a retransmis certaines choses, mais je viens seulement, je dirais, de recevoir les éléments de Monsieur Lancel, donc par écrit, hein, donc je vous laisse un petit peu donc
en fait, y a deux éléments
positionner tout cela.
Il y a deux éléments essentiels, donc, c'est que d'une part, le règlement de propriété il peut faire référence à un règlement intérieur qui lui détermine, dans lequel on détermine les charges. Sauf pour
Bonjour.
Donc on peut faire un règlement intérieur qui auquel le règlement de propriété fait référence.
Bonjour.
Et ce qui fait que ce règlement intérieur, il est modifiable sans.
Voilà, sans repasser devant l'Assemblée générale des copropriétaires. C'est l'avantage qu'il a.
On peut le faire avec l'Assemblée générale, mais on n'est pas obligé d'enregistrer chez le notaire. Il n'y a pas. Enfin bon. Donc c'est relativement léger. Et donc ça c'est tout à fait intéressant. Alors c'est possible de mettre dedans. Alors je vous explique ce qu'on a compris. Après c'est peut-être à vérifier, à nuancer. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a des charges qui de toute façon sont les charges communes et qui, elles, sont de toute façon soumises
à la réglementation 65, c'est-à-dire qu'elles sont réparties en fonction de chacun.
Ce qu'on a compris aussi, c'est que la règle des tantièmes, au sens de la loi 1965, ça n'est pas une règle qui est la même pour toutes les copropriétés. Enfin, la règle de base, c'est la même. Le principe de base, c'est le même. Mais le calcul de répartition des tantièmes, il est fait par le géomètre.
Évidemment, qui est établi à l'état descriptif.
Et du coup, comme à la réunion de novembre, on avait parlé de cette règle de l'HPC, on va lui poser la question de savoir si éventuellement il estime qu'il peut l'intégrer
dedans. C'est ça, pour avoir échangé un petit peu donc, effectivement, avec Maître Robillard sur ce sujet. Effectivement, il y a peut-être possibilité au titre des tantièmes des parties communes dites spéciales, de pouvoir avoir une règle de répartition qui soit différente des règles de parties communes générales, des règles de parties communes de bâtiments, qui peuvent être établies dans un état descriptif de division. On peut avoir des spécificités liées à certains équipements et qui ne sont pas répartis de la même façon que les autres.
Donc là, ce qu'on attend, c'est que c'est que le géomètre nous dise quelle est sa vision à aujourd'hui, en début de réunion, et puis voir ensuite si ce qui est, je dirais, amendable, ce qui est modifiable dans cette. Tout en restant évidemment dans le cadre légal, bien sûr. Donc voilà, si on peut résumer.
Si effectivement on pouvait se trouver dans ce cadre-là, nous resterions bien, donc effectivement, sur un lot qui serait dans les tantièmes de parties communes, mais avec un mode de répartition spécial. Effectivement, c'est l'idéal, je pense, pour la gestion derrière de la copropriété. Est-ce que c'est vrai que...
Alors après, le notaire nous a parlé de constituer une indivision.
Une indivision,
Ou de rester sur une... sur quelque chose que moi j'ai dû un peu de mal personnellement identifier. Qu'est-ce qu'il dit? La solution qui n'était pas de l'indivision. je ne sais pas comment.
Parce que l'autre option, c'était de constituer un lot spécifique, voilà. Mais où chacun des copropriétaires serait donc comment propriétaire en indivision. Ouais. Donc avec une convention. Alors, soit il n'y a pas de convention, mais je dirais l'indivision n'est pas comment. Je ne sais pas comment dire exactement, mais serait correctement établi et réparti donc en propriétaire, ou faire une convention d'indivision qui vient fixer les choses et déterminer la quote-part propre à chacun sur ce lot. Mais ce serait bien un lot spécifique et qui serait donc dans chaque contrat que vous passeriez, qui aurait votre propre lot.
Oui.
Donc vous seriez, je dirais, propriétaire. En totalité et une partie de ce lot qui serait donc les parties dites mutualisées. Mmh. Et derrière, après, bon, on serait dans un même régime, je crois, d'après ce qu'il m'avait un peu expliqué, où il y aurait de toute façon à établir un règlement intérieur qui viendrait comment préciser les conditions de gestion derrière. Donc, au niveau donc de la copropriété, est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels vous aviez des éléments particuliers à voir ou que vous auriez vu avec lui, qui aurait posé question?
L'élément principal, c'était de choisir globalement dans les deux solutions ce que semblait préconiser le notaire. À mon avis, il faut confirmer. On sera forcément sur une indivision, et lui de dire une indivision, normalement, c'est limiter l'entente gratuite. Donc il faut faire une convention.
Convention, voilà, c'est ça. Parce que sans convention, chacun peut sortir comme il le souhaite de l'indivision. Donc, pour pas que vous trouviez dans cette situation-là et qu'un jour, donc, il n'y ait plus qu'une partie qui serait donc sur ce lot. Donc il faudrait établir cette convention indivision. Voilà. Bon, après, moi, dans le questionnement que j'avais par rapport à ça, c'était votre... Alors, la position qui va être forcément déterminante, c'est la position du géomètre, par rapport, effectivement, à la préparation spéciale. Donc ça, on va lui poser la question pour savoir ce qui peut être fait. Hein. Et ensuite, donc, effectivement, si cette solution vous satisfait, je crois qu'on va plutôt aller vers celle-ci. Je crois qu'il arrange tout le monde. Voilà. Si cette hypothèse-là s'avérait impossible à mettre en œuvre, donc effectivement, nous rebattrions sur la seconde, là, et donc avec voir avec lui comment cela peut s'organiser de la même façon, et donc avec le notaire précisément pour établir bon, les conventions bonnes et due forme correspondantes derrière pour chaque contrat donc à venir. Donc, moi, je peux continuer, j'irai à avancer en ce sens, hein, donc avec lui. Après, bon, moi, ce que j'avais pas forcément bien vu, c'est donc effectivement l'intérêt de passer donc effectivement sur cette indivision, parce qu'au final, bon, elle ne résout pas le problème au niveau donc d'un choix éventuel et futur de retrait de main des uns ou des autres, puisqu'il faut que tout le monde soit d'accord pour que l'indivision, qu'une partie des lots soit cédée. Donc voilà. Mais le maître Villard va pouvoir nous éclairer complètement, je dirais, donc sur ces aspects. Oui, donc nous revenions, donc maître Villard, sur la réunion de vendredi, donc il semble satisfaire, je dirais, un petit peu donc les parties. Donc sur ce plan, je dirais, rester un élément important, c'est effectivement, c'était la position du géomètre quant à la possibilité de pouvoir, si on fait l'option, je dirais, une copropriété classique avec, je dirais, l'ensemble des dans les parties communes, donc effectivement avec possibilité d'identifier des parties communes spéciales pour ce lot, on trouverait, je dirais, l'avantage pour tout le monde, je dirais, d'aller dans cette situation. Il y aurait vraiment que si ça, au niveau du géomètre, il y avait une difficulté donc à appréhender la copropriété future dans ces termes, de voir comment on peut se rabattre sur l'autre option que vous avez évoquée, la possibilité d'identifier un lot spécifique où chacun des copropriétaires serait propriétaire d'une partie en indivision, hein, et dans le cadre d'une convention d'indivision qui viendrait donc organiser, je dirais, celle-ci. Donc voilà un petit peu le schéma dans lequel on se dessine. Donc je pense que ce qui va être important maintenant, c'est par rapport au géomètre, donc voir sa position par rapport, je dirais, à cette division future.
Donc l'idée, c'est plutôt de rester sur les parties communes, genre,
Il semblerait qu'on puisse effectivement plutôt rester sur cette hypothèse-là, puisque je ne vois pas davantage, je dirais,
juridiquement
à aller forcément vers l'indivision, hein, si on peut régler ça dans un cadre classique de copropriété avec une détermination de parties communes spéciales,
ouais,
pour ces
destinations particulières, pour ces parties communes.
Ouais. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'on a un peu de mal à saisir vraiment le détail fin de ces variantes.
On n'a pas fait l'étude de la carrière.
Mais honnêtement moi, mon sentiment, c'est que la finalisation juridique de l'organisation importe peu. Vous, ce que vous souhaitez véritablement, c'est avoir la maîtrise de l'usage derrière.
Exactement.
Et on peut y arriver d'une façon ou d'une autre.
Je dirais la maîtrise de l'usage et des charges, et de la répartition de charges.
Oui, alors pour la répartition des charges, dans la limite de ce qu'impose le fonctionnement d'une copropriété.
Voilà, aussi, bien sûr.
Mais comme ça vous a été rappelé, dans la mesure où dans les parties communes, on peut avoir des parties communes générales, des parties communes spéciales, dans des lots privatifs, on peut avoir une détention par une indivision. Mais l'indivision, c'est pas forcément une situation effectivement à privilégier. Si ça avait été via le syndicat des copropriétaires, il y avait une logique peut-être plus cohérente par là, dans la mesure où ça n'est pas le cas, parce que Cohabita ne peut pas vendre à une personne morale, la logique d'une partie commune paraît peut-être être plus naturelle. Après, c'est, encore une fois, cette finalisation juridique, à mon sens, elle est secondaire.
Par contre, ce qu'on aura peut-être besoin de connaître, effectivement, c'est par rapport au questionnement qu'on va avoir à faire auprès du géomètre sur la détermination donc de cette répartition donc, pour les parties communes dites spéciales, pour les parties mutualisées, quel est votre mode de répartition derrière que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour que lui voit si réglementairement il peut aller jusqu'à votre demande.
Qui dit partie commune,
oui,
dit copro. Donc précision dans le règlement de copro.
Oui.
Qui dit partie privative dit privatisation du lot, donc organisation connexe au règlement de copro, sur vraiment l'agencement des documents.
Oui.
Voilà, mais in fine, on peut faire un peu ce qu'on veut sous réserve de la loi de 65, hein, sur la copro quand même, hein, évidemment. Mais on peut aboutir au même résultat dans l'un et dans l'autre sous réserve de cette contrainte majeure qui est la loi 65 sur la copropriété.
Est-ce qu'on pourrait préciser un exemple je pense
oui.
La manière on réfléchit à une formule tenant compte du nombre d'habitants à un instant T ou sur une période. Donc cette formule qui serait éventuellement modifiable, il y aura des enfants qui vont arriver ou qui vont partir, donc cette formule serait modifiable en partie. Est-ce que c'est possible qu'elle soit inclue dans le règlement intérieur, peut-être mentionnée dans le règlement de copropriété, mais avec la possibilité qu'on puisse la faire évoluer en fonction du
Bah, à mon sens, oui, mais si on veut être très précis, par exemple, l'utilisation de machines à laver, par exemple,
oui.
Bah, qui pourrait être dont le coût de fonctionnement de ces machines à laver pourrait dépendre du nombre d'occupants par logement, par exemple. Je pense que là, oui, dans la mesure où on n'est pas sur une dépense relative à l'immobilier.
Oui,
tout ce qui pourrait être relatif à l'immobilier, de toute façon, ça va être la loi de 65 qui va être impérative.
Oui.
Après, tout ce qui est le fonctionnement proprement parlé, pour moi, on peut avoir une règle différente. Hein.
Parce que le souhait aujourd'hui, par rapport à des équipements comme celui-ci, ce que vous indiquez, une machine à laver, est-ce que c'est un souhait de dire, effectivement, quels que soient les copropriétaires qui utilisent ou qui n'utilisent pas, tout le monde contribue, ou est-ce que c'est un souhait, effectivement, que, ça, que les gens ne contribuent qu'à l'usage?
L'idée, c'est que tout le monde va contribuer, puisque tout le monde va utiliser, tout le monde est censé utiliser, oui. Ça c'est l'objectif. Ensuite, effectivement, la répartition de la charge de fonctionnement, et si on prend les... C'est vraisemblable que le poste laverie va être le plus... va être un poste important par rapport au reste. On se dit, tiens, bon, si on proportionne cette répartition au nombre d'habitants par logement, on aura une part par logement qui sera plus équitable que si on tient par nombre de logements ou si on tient compte que de surface.
Parce que typiquement sur ce genre de choses, c'est quelque chose que vous aurez à gérer demain dans le cadre de la propriété. Donc il faut quand même que vous pensiez d'avoir des choses qui soient assez simples à gérer. Parce que typiquement pour une machine à laver, moi j'ai un réflexe, il me faut l'eau, il me faut l'électricité. Il faut que j'ai un comptage spécifié derrière la machine pour savoir qui a tiré de l'eau, qui a tiré l'électricité. Et l'électricité, elle va sur les autres parties. C'est ingérable. Hein.
Alors, tout de suite. Mesurer la charge en électricité et en eau. De ce poste-là, c'est pas difficile, avec le compteur,
il y a chaque jour. Oui, mais après, voilà, si vous commencez à multiplier le nombre de compteurs de décompteurs par usage, ça devient compliqué à la fin.
On peut évaluer.
Après, c'est, là aussi, c'est dans la gestion entre vous, vous ayez des choses qui soient relativement claires, simples, pour pouvoir déterminer la plupart de chacun. Parce qu'on sait toujours, effectivement, que.
Exprimer nos gens souhaits par rapport à la répartition des prix, pour calculer le prix des parties mutualisées. On était parti sur. On a tout de suite vu qu'il y avait deux solutions, dont aucune n'était réellement équitable pour tout le monde. C'était de dire on calcule les prix des surfaces mutualisées, la quote-part de chacun en fonction de sa surface d'appartement, mais ça pénalisait un peu les grands appartements, ou bien en fonction du nombre de logements, en divisant par 17. Et elle au départ par 6. Donc ça pénalisait les petits. On s'est dit, bon, très bien, on fait la moyenne. Ce qui était une cote mal taillée, mais qui au moins était un petit peu entre les deux. Et là, on se dit, est-ce que on prendrait cette cote mal taillée, qui est la moyenne entre les surfaces et puis 17 logements, et puis prendre plutôt le nombre de personnes réparties, le nombre de personnes, en disant, on divise les charges de ces parties spéciales, par le nombre d'habitants.
Ça reste à géométrie variable aussi.
Alors c'est à géométrie variable, mais c'est dans la mesure où on peut inscrire ça dans un règlement intérieur qui lui est modifiable à volonté, nous ça ne nous dérange pas de.
Ce sera annualisé. C'est quoi la fréquence? Ce sera annualisé? Ce sera à l'année? Parce que si vous en faites, en plus vous refaites une cote-part pour rata temporis, ça redevient compliqué. Si au cours de l'année il y a eu deux personnes, puis trois, puis.
Il ne faut pas complexifier.
Ça peut arriver. Vous avez un couple qui a trois enfants, les trois sont là, après les trois sont ailleurs, et ils passent de 5 à 2 au cours de la même année.
L'idée de base, c'est qu'on puisse mettre ça dans un règlement intérieur qui est modifiable, parce qu'on se dit au fond, on ne sait pas exactement. Vivre, le fonctionnement il n'est pas rodé puisqu'on l'a pas vécu. Et donc on se dit, bon, pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas une solution de départ, sachant qu'on peut la modifier, ce qui nous donnerait, ce qui nous enlèverait du souci, on ne se sentirait pas bloqué dans un moule, puis en se disant, bon, d'ici un an ou deux, on verra à l'usage si on y a lieu de modifier ou pas. Quoi.
Et les problèmes, c'est. S'il y a la machine à laver, il y a quoi? Il y a les. Pour regarder d'un point de vue pragmatique.
Qui vont consommer, ça va être la machine à laver, la salle et puis la grande salle qui va être utilisée, qui a quand même été faite conçue pour ça, qui va être utilisée avec du monde régulièrement dedans, une cuisine dedans qui va fonctionner. Je pense que c'est les deux postes, la chambre d'amis, ça ne consomme pas beaucoup. L'atelier non plus. Les deux postes, c'est la buanderie et puis la grande salle. Quoi.
Autant pour la buanderie, on peut faire établir une moyenne, une machine, ça revient à temps, et donc ventiler au nombre de personnes qui noteraient sur un cahier, j'ai fait tant de machines. Autant c'est difficile donner un chiffre par personne ou par, par foyer pour la grande salle ou l'atelier. Oui. Et là, il faudrait qu'on trouve une formule qui soit un peu hybride.
Avec, et souple en même temps.
Et souple. Oui. Et si c'est grave, si j'ai bien compris, si c'est dans le règlement de copropriété, c'est donc gravé dans l'arbre.
Ça nécessite une modification du règlement de copropriété.
Si on donne le principe dans le règlement de copropriété et que les modalités concrètes de calcul sont renvoyées au règlement intérieur,
oui,
c'est possible.
Oui.
Et donc, du coup, on
oui, sans heurter les impératifs de la loi de 65.
Voilà.
Et le principe de la loi de 65, c'est que les charges de copro doivent être réparties en fonction des tantièmes.
Oui.
Donc, ça doit pas être assimilé à une charge de copro, ça doit plutôt être assimilé à une charge de fonctionnement de cet équipement particulier.
Oui.
Voilà, pour imaginer, ça me paraît être cohérent. Après, on peut toucher des limites, quoi. C'est ça, entre est-ce que c'est une charge, est-ce que c'est une dépense liée à l'équipement commun, quoi.
Pour la salle, il va y avoir quoi? Il va y avoir éventuellement un poste, un téléviseur, il va y avoir une chaîne Wi-Fi, il va y avoir un équipement informatique, et il va y avoir une cuisinière.
Oui.
Et puis un chauffe-eau éventuellement, non, je ne sais pas s'il y a
de l'eau, de l'électricité.
Oui, il y a un chauffe-eau.
Et l'acquisition,
tout ce qui est l'investissement.
Comment ça se passe?
Sur l'investissement, la répartition est faite, les quotes-parts, elles ont été calculées.
Oui, c'est ça.
Là-dessus, on ne touche plus, ça, évidemment. Sinon, on va attraper les cheveux blancs, c'est ça.
Je parlais pas de ça, je parlais de l'acquisition de tout ce qui est.
Des machines, tout ce qui est acquis, et leur renouvellement futur.
Oui,
c'est ça.
Pour moi, il faut mettre ça dans le fonctionnement, parce que c'est.
Oui, donc ça rentre dans notre règlement intérieur. C'est là qu'il faut aller loger toutes ces choses. On part de locaux, mais sans leur équipement.
Bon, c'est clair que si on dit tiens on change les carrelages de la grande salle, ça c'est de
l'investissement.
C'est de l'entretien, c'est l'entretien du bâtiment.
C'est de l'IMO.
C'est de l'IMO, par destination.
C'est les charges.
Concrètement, il faudrait qu'on puisse. Il ne va pas venir le géomètre aujourd'hui.
Non, je vous dis, il était en congé toute la semaine.
Il faudrait qu'on lui propose notre modèle pour qu'il le valide.
J'ai pas pu l'avoir.
Ou qu'il nous fasse ses propositions.
Oui. C'est exactement ça. Ouais.
On va réfléchir à ça dimanche.
Moi, ce que je voudrais pour vous, donc évidemment, pour qu'on puisse voir avec lui, c'est que vous veniez vous avec vos approches de répartition, pour voir comment lui peut les prendre en compte ou non. Parce que pour moi, c'est ce qui va être déterminant. Donc sur le choix, effectivement, entre les deux hypothèses qu'on a indiquées tout à l'heure, soit on reste en partie commune, soit on identifie un lot spécifique avec donc une convention de division et des règles particulières de répartition entre les copropriétaires. Donc on a besoin de ça. Donc là, je pense que dès le début de semaine prochaine, je prendrai contact avec lui donc pour fixer, je dirais, rapidement un rendez-vous afin de pouvoir échanger sur ce point. Et par contre, évidemment, très vite, le pendant, c'est si donc il a besoin des informations, lui, précises, c'est que vous puissiez venir, vous, avec vos idées, je dirais, déjà, pour voir si elles peuvent être prises en compte ou non. Sur dans les questionnements aussi qu'on m'a fait part c'est monsieur Lancel c'est dont on avait parlé ensemble, c'était sur l'administration demain de la copropriété. Donc vous êtes sur le principe d'un syndic bénévole, c'est ce qui semble être l'avoir retenu.
Change pas grand chose.
D'accord. Donc, qui nécessitera néanmoins, je dirais, la désignation d'une personne, un des copropriétaires, pour l'assurer.
En termes de syndic, les responsabilités du syndic, comment est-ce que la personne qui est désignée comme syndic? Donc, il représente en fait la copropriété quelque part.
C'est complètement ça.
Donc, les responsabilités, c'est quoi? Donc, il a des responsabilités vis-à-vis de la copropriété, de choix de fournisseurs, de tout ce qu'on veut, enfin, de
Oui. Dans les limites, effectivement, du contrat qui...
Voilà, de pouvoir justifier les choix et justifier les dépenses, j'imagine.
Oui. Hein.
Et vis-à-vis de l'extérieur...
En fait, il y a une responsabilité budgétaire.
Budgétaire. Mmh.
Ouais. Donc, c'est peut-être ça que vous venez d'évoquer. Oui. Mais il y a aussi une responsabilité administrative, juridique. Mmh. C'est-à-dire, est-ce en justice, il y a besoin d'avoir une action en justice, c'est qui représente la copro, bien sûr. Il y a aussi le fait de d'être conforme aux impératifs qui s'imposent à tout syndic. Qui sont de plus en plus nombreux, ces impératifs sont de plus en plus nombreux. Par exemple, il y a aujourd'hui l'obligation d'immatriculer les copropriétés. Il y a l'obligation d'ouvrir un compte dédié à la banque pour la copropriété. Là, pour le coup, ça fait une difficulté insurmontable. Mais il y a tout un tas de réglementations comme ça qui viennent se superposer et qui viennent s'imposer au syndic dans la gestion d'une copropriété.
Il n'y a pas de statut spécial au syndic bénévole. En fait, il y a un statut de syndic pour tout le monde.
Enfin, ouais. Les syndics. La seule chose, c'est qu'il ne s'assure pas de rémunération.
Donc. Voilà, et qu'il n'est pas inscrit, il n'est pas fini à voguer, je crois.
Ouais.
Il n'est pas fini à voguer, donc il n'a pas besoin d'avoir une carte professionnelle et une garantie financière pour pouvoir exercer sa mission.
Mais sa responsabilité, la même chose.
Oui.
Parce que, par exemple, il y a une responsabilité, j'imagine... j'imagine pas de cas particulier. Est-ce que du fait de l'activité de la copropriété, il y a un dommage à un voisin, par exemple. Je sais pas.
Après,
on casse un mur, par exemple.
Ça, c'est la copropriété qui est responsable.
C'est ça,
lui, il représente simplement la copropriété.
D'accord.
Lui, sa responsabilité personnelle.
C'est de faute. Si par exemple il y a un souscrit un contrat d'assurance, il ne souscrit pas contrat d'assurance, typiquement après c'est une responsabilité pour faute, il peut être engagé à ce titre.
Il est responsable effectivement par rapport à tout ce qui est assurance et tout ce qui est matériaux. Alors là on est sur une construction neuve, mais dans le temps on a des syndics qui peuvent être là aujourd'hui, qui peuvent être actionnés parce qu'il y a des matériaux amiantés et ils ont une obligation d'évaluation périodique de tout ça, de surveillance de la copro. Là, ce ne sera pas le cas, si ce n'est qu'il répond vis-à-vis de l'ensemble de la copropriété, éventuellement des choses qu'il ne signale pas, alors qu'il devrait le faire en qualité de syndic. Un exemple auquel je pense dans une copropriété neuve, c'est des désordres, des malfaçons qui peuvent arriver. C'est lui qui affronte la copropriété, bien sûr, et les copropriétaires doivent lui faire retour sur tout ce qu'ils peuvent constater, mais c'est lui qui agit. S'il y a une inertie de sa part, il engage sa responsabilité, parce que c'est lui qui doit, une fois que les choses lui sont signalées, c'est lui qui doit agir.
Bon, maintenant, en plus, c'est un statut, je dirais, qui est choisi au départ et qui peut à tout moment être mis en cause, effectivement, par son président copropriétaire. Si vous estimez qu'à un moment donné, vous avez des craintes, effectivement, sur l'administration et la gestion, vous avez besoin, je dirais, de compétences spécifiques, vous pouvez toujours avoir recours à un syndic professionnel, après, moyennant, effectivement, rémunération.
Toujours réfléchir au sens.
Voilà, je pense que.
On va administrer ce qu'on sait faire, et ce qu'on saura faire, on ira voir un expert.
Voilà, c'est ça, je pense qu'on ne peut pas non plus, je dirais, se brider de ce côté-là. Quoi.
Il est aussi aidé de son conseil, le syndic.
Oui, bien sûr. Le conseil syndical.
On a dessus un peu de soucis.
Voilà, est-ce qu'il y a d'autres points? Je reprends un petit peu parce que je vais recevoir le document de monsieur Lancel. Donc, l'acte de répartition définira le tantième de la copropriété pour le financement de la matière de l'école par les parties communes. La copropriété ne distingue généralement pas les parties communes obligatoires des espaces mutualisés. Toute une gestion différenciée peut s'engager si elle est inscrite dans le règlement de copropriété, voire dans l'état d'esprit de division en cas de lot privatif distinct. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La destination habitat participatif est celle des équipements de la vie sociale mutualisés dans le règlement de copropriété pérennise le projet participatif. Donc ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et une difficulté à ce que ça soit, je dirais, repris. Hein. Si ces équipements sont distincts, une évolution intérieure est facilitée. Bien sûr, on l'a vu tout à l'heure. Des modalités de fonctionnement adaptées, plus souples et plus évolutives, sont spécifiables dans un règlement intérieur, révisable par l'Assemblée générale du syndicat ou de l'organisme gestionnaire selon l'option de gestion retenue. Une répartition des coûts à l'usage devra être validée par le gestionnaire, c'est ce qu'on a indiqué, à travailler sur cette répartition. Et le conseil syndical coopératif est à spécifier dans le règlement de copropriété pour être activable. Alors effectivement, est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses, parce que là on part sur résultat d'un
syndic bénévole.
D'un syndic bénévole. On n'est pas dans un.
Non, mais on peut, à mon sens, trouver une formulation dans le règlement de copropriété qui permettrait de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que la notion de syndic bénévole n'est pas mentionnée dans le règlement de copropriété. C'est une organisation classique, on va dire, mais on peut préciser une formule alternative. Il pourrait y être substitué par l'organisation d'un syndic coopératif en assemblée générale avec des votes moyennant une majorité qualifiée tel que prévu dans la loi de 1965. On peut mettre une formulation générale comme ça. Si un jour vous faites le choix de passer sur un syndic coopératif, que vous puissiez le faire tout aussi bien que de passer d'un syndic bénévole à un syndic professionnel. Bon. Ça, à mon avis, on peut ne pas se brider dans le règlement de copropriété à ce niveau-là. Encore faut-il le prévoir, cette alternative-là.
Ça peut être des votes à l'unanimité. Parce que là, vous parlez de vote à majorité qualifiée. Pourquoi?
Alors, on peut toujours, dans un règlement de copro, prévoir une majorité renforcée par rapport au minimum légal. Par contre, on ne peut pas s'affranchir de majorité, l'unanimité ou majorité qualifiée. Donc, si votre souhait, c'est de dire on passera de l'une à l'autre à l'unanimité, on peut. Mais c'est quand même très contraignant, quand même.
Donc, dernier point évoqué, mais je pense que ça sort un petit peu du cadre, financement solidaire entre particuliers par reconnaissance de dette. Alors, je ne sais pas ce qui était sous-entendu.
On l'a évoqué d'abord.
Donc, je pense que c'est plus...
C'est-à-dire que la personne qui était avec vous, mais elle n'est pas là aujourd'hui...
Monsieur Lancel.
Il a une expérience par ailleurs que je n'ai pas, pour le coup, et une vision avant-gardiste sur des moyens juridiques qui seront éventuellement disponibles à l'avenir. Mais qui ne me semble pas forcément, puisque c'est en gros l'État ou un organisme administratif qui serait en capacité de proposer des prêts spécifiques pour l'acquisition dans ce cadre figure-là.
Dans le cadre participatif.
Avec éventuellement des avantages fiscaux pour des gens, pour des prêteurs, qui peuvent être des particuliers physiques. Mais en dehors de ces mécanismes-là qui sont, à mon avis, balbutiants, j'en ai jamais vu en pratique. La seule manière que le droit connaît aujourd'hui, c'est des prêts qui sont faisables, des prêts entre particuliers, mais qui nécessitent d'être formalisés à minima via un formulaire fiscal et de manière un peu plus organisée via des reconnaissances de dette avec garantie, éventuellement un type garantie hypothécaire.
On n'a pas opté pour cette solution-là parce que la solution proposée par Pascal Lancel, qu'il y a l'urgence. Et comme vous dites, c'est balbutiant, c'est en train de se monter, on sera peut-être dans les murs.
Et je ne sais même pas si l'opération y serait éligible. D'après ce qu'il disait, c'est quand même le montage d'une opération qui pourrait avoir des financements aidés. Mais est-ce que l'accédant particulier pourrait avoir une aide par rapport à ça? Je ne sais pas.
Oui, c'est une association.
Donc, dans le timing, dans le calendrier qui est le vôtre, paraît peut-être un peu court.
Parce que c'est déjà dans l'angle de la loi, donc effectivement, qui prévoyait justement ces montages en habitat participatif, ils étaient déjà montés dans un cadre d'une société à constituer au préalable. C'était un peu particulier. Est-ce que ces droits-là ne sont pas effectivement attachés à la société constituée et non pas, je dirais, à chaque acquéreur? C'est possible. Voilà. Sur le plan copro, encore des questions? Pas.
Je pense qu'on a à peu près les éléments pour décider. On en parle dimanche entre nous. On a à peu près les éléments pour se positionner.
Bien.
Donc finalement, c'est bien. C'est l'option B, finalement.
Vous, c'est l'option B, alors que moi, j'ai pas d'option B.
C'est la convention.
D'accord, c'est l'option B, effectivement.
Oui, oui, on vous êtes reparti de ça. Oui.
Alors c'est l'option B, attendez. On s'entend. Pour l'instant, moi. Oui, c'est ça, c'est l'option B. Sur la question des pays d'élection, se constitue un lot. C'est pas tout à fait ça. Attendez, je suis pas beaucoup dans cette logique-là.
On a du mal.
Oui, oui, non, la transcription me.
Soit l'une ou l'autre, c'est quand même une indivision. Parce que dans l'autre, si c'est l'ensemble.
C'est, non, non, c'est hein, sous c'est l'organisation de la copro.
Ouais. Oui.
C'est une partie commune. Oui. C'est une. C'est pas une indivision. C'est organisé. On est dans une copro. Donc c'est l'organisation de la copro.
Ouais.
Si c'est une indivision, c'est juridiquement un système inorganisé, révocable et précaire. Donc il y a une fragilité inhérente à l'essence même de ce qu'est une indivision juridiquement. Donc bien sûr, il faut que ce soit chapeauté par une convention auquel tout le monde doit adhérer, avec des modalités de renouvellement,
etc. C'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre.
Peut-être que c'est écrit là. Alors, c'est pas du tout comme ça que j'ai compris, moi.
C'est bien. Comment est-ce qu'on pourrait le définir avec les termes.
Mais non, mais là, ce que vous m'avez écrit, c'est ça.
Oui.
Alors, du coup,
vous avez. Alors, voilà, vous avez reçu.
C'est ce
qu'on vient de recevoir à l'instant.
J'ai du copier-coller. C'est
pas moi qui. Ah, c'est ce que vous avez là, je pense aussi, peut-être, non
Ah, mais ça, moi, j'en ai pas eu connaissance.
Bah, vous l'avez en mail tout à l'heure, comme nous.
D'accord.
Mais on l'a reçu très tardivement, donc.
D'accord.
Mais pour moi, je sais pas, on est dans ni l'un ni l'autre de ces situations.
Soit le syndicat des copropriétaires délègue tous les locaux communs en gestion avec l'HPC. Ah, vous êtes plutôt sur l'option 1, mais sans voilà. Délégation de gestion.
Sans délégation de gestion, c'est tout.
Sans délégation de gestion. C'est-à-dire organisation copro, partie commune, copro. Partie commune spéciale. Donc, dans le règlement de copro, on dit qu'il y a une destination particulière pour ces parties communes qui sont identifiées précisément dans le règlement de copro, ce qui n'est pas difficile pour le coup. Et avec renvoi de la gestion du fonctionnement de ces espaces communes particulières à un règlement intérieur.
Oui. Pour moi, c'est.
Voilà. Et on est bien. On s'affranchit de l'association EHPC.
Oui.
Mais on la gère différemment. Enfin,
voilà.
Sans passer par une association.
Oui. Donc on peut le faire à l'assemblée des copropriétaires.
Oui, complètement. Ça c'est libre. Hein. Ça, c'est libre. C'est un ajout de toute façon de la loi de 65, ça. C'est permis. Donc a fortiori, le fait de ne pas mettre une association et de mettre en place l'ensemble des copropriétaires avec une participation aux dépenses de fonctionnement convenues entre tous, bah oui, c'est ce qui serait fait dans un cadre associatif. Le cadre associatif permet d'avoir une organisation préalable. Avec un président, etc., des gens qui surveillent, on va dire, par une organisation. Après, vous le faites sous la forme que vous le souhaitez, dans un règlement intérieur, de manière coopérative, puisque ça a l'air d'être à peu près ce sur quoi vous êtes d'accord là-dessus. Parce que c'est bien d'avoir une forme associative, mais il y a une lourdeur. Plus on rajoute des échelons, plus il y a une lourdeur quand même.
C'est une lourdeur, oui. Oui et non, parce qu'en fait, on habite quand même tous au même endroit, et on se voit souvent, donc c'est très facile de faire...
Non, puis c'est surtout que l'association et le syndicat des copropriétaires demain, c'est la même chose.
Oui, mais techniquement, qui dit association, dit secrétariat juridique de l'association.
Voilà, sinon, voilà.
Une assemblée, ça doit être transmis en préfecture, mais à mon sens, vous pourrez le faire plus tard aussi. Dans un règlement intérieur, vous pouvez dire, bah, finalement, on voudrait se réunir sous forme associative pour gérer ça.
Vous le ferez.
Mais partir directement avec une forme associative, vous avez une copro avec un syndic bénévole, une association avec une organisation interne. Peut-être, hein, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, mais alors, vous avez une lourdeur de mise en place qui va être un petit peu contraignante.
Oui, parce qu'il faudra à chaque fois de faire délibérer l'association.
Oui. Après, s'il y a des grains de sable et que vous avez la volonté à l'utilisation, à l'usage, de formaliser un peu plus les choses pour les cadrer un peu mieux, vous le ferez.
D'autant plus que là, il n'y a pas réellement un intérêt particulier, puisque l'association et le syndicat majoritaire,
c'est le même groupe.
Donc on multiplie.
Ça ne sert pas grand-chose, effectivement, de repasser par une structure qui va falloir faire vivre de son côté, avec ses propres décisions, pour valider le côté. Donc. C'est un peu.
Donc c'est l'option C alors.
Bah, c'est l'option intermédiaire.
C'est plus la prime.
Après, voilà. Bien. Sur ce point, donc. On clôt.
Oui, je pense.
Tout dépend du géomètre.
Maintenant, tout dépend du géomètre.
Je pense que vous le disiez à la dernière réunion qu'il a. Déjà pas mal bossé dessus parce que ça demande du temps.
Oui, parce qu'il avait déjà travaillé dessus.
Il avait commencé, vous le dites, mais moi je lui avais dit d'arrêter, c'est pour ça, oui. Tant que j'avais pas votre retour, pour qu'il sache précisément dans quel cadre il pouvait avancer, qu'il ne travaillait pas, je dirais, d'un côté, et puis de l'autre côté, je dirais, ce que vous avez fait, c'est plus comme ça, c'est d'une autre façon.
Donc, c'est mais je pense ça. Que dans la mesure où ce ne sont pas des lots privatifs, ouais. Ça va être plus simple pour lui. Gérer, il faut qu'il mette des paragraphes pour la destination de ces espaces communs particuliers. Bon, mais ça ne va pas changer l'état descriptif de division. Voilà.
Par contre, tout ce qui est précision par rapport à ces parties mutualisées, nous on a mis les descriptifs exacts des choses pour que là on sache bien les reprendre dans le règlement de copro. Et tout, c'est ça qu'il faut qu'on ait aussi. Hein. Il y a une lambrie, je ne sais pas si.
Par exemple, je pensais aux espaces de stockage.
Ouais.
Elles sont calculées dans les parties mutualisées, mais en fait, c'est des lieux qui, une fois qu'on aura stocké, ça ne bougera pas, quoi. Il n'y aura pas de vide.
C'est plus une partie commune. Là,
voilà, ça serait plus une.
Il n'y a pas d'autre usage qu'un stockage. Voilà. En fait, effectivement, il faut déterminer le lieu d'usage dont vous avez. La chambre avec sa salle de bain qui est attenante, vous oui. avez la salle commune, ah, oui. vous avez l'atelier, la buanderie.
Mmh.
Voilà. Est-ce non oui. séchoir, pour moi,
il
comme...
pas
non, séchoir. Vous avez quoi non. C'est un séchoir, c'est une pièce dans laquelle vous avez des étendages. Non, pas le séchoir. Non, non. Ni le garage, ni le garage à vélo, ni tout ça qui seront des parties communes.
C'est parti commune.
Mais il faut distinguer bien ce qu'on balance en spécial et leur dénomination exacte pour qu'on puisse reprendre les éléments dans le règlement de copropriété. C'est ça qu'on va avoir besoin.
Effectivement, ce qui n'est pas strictement nécessaire d'être en partie commune spéciale, vous me laissez en partie commune générale.
Ouais. Ben voilà, pour la peine d'en couvrir inutilement les parties communes spéciales.
Le jardin, c'est partie commune aussi.
Oui, oui.
Ah, bah oui, c'est sérieux.
Partie commune.
Alors là, plutôt partie commune spéciale. Parce que par principe, en copro, le sol est commun.
Oui, le sol est commun.
Il peut y avoir un droit de jouissance exclusif à l'un des copropriétaires, mais vous, au contraire, c'est une organisation.
Là, ça va dans le spécial. Il
n'y a pas de charge.
Non, mais c'est une question d'usage.
Après, voilà, pour pouvoir les mettre qu'ils soient dans les deux, quoi. Il ne faut pas qu'on les perde. On les balance d'un côté ou de l'autre.
L'arrosage.
Vous servirez à vos voitures aussi.
Des graines.
Régler dans le règlement intérieur, c'est plus simple. Parce que dans les parties communes qui est côté copro, et puis un spécial qui balance dans le règlement intérieur. Et donc, même s'il n'y a pas de charge, il y a des règles d'usage qui vont entre eux. Voilà, ils sont peut-être vermis, mais là au moins ça laissera la souplesse je dirais, sur ces arrières.
Identifier colonne par colonne ces espaces spéciaux
voilà. Et donner le mode de répartition que vous souhaiteriez voir en face.
Qui nous valide ça.
Donc ça, vous me dites que vous y travaillez ce week-end.
On y travaille.
Non, peut-être pas tout le week-end. Mais... Il ne va pas faire beau.
On y travaille.
Et donc, il faut que je puisse récupérer ça donc, dans le courant de semaine prochaine pour pouvoir prendre un temps avec le géomètre pour en discuter.
Vous auriez son mail par hasard?
De M. Chéron, vraisemblablement, oui. Alors, par contre, je ne sais pas si je
vais vous l'envoyer.
Oui, il faut bien que je vous l'envoie.
Oui, parce que je ne sais pas si j'ai gardé dans le dossier. Mais en tout cas, je vous l'envoie aussi. Je vais vous l'envoyer.
Merci. J'ai une question annexe. Qui est-ce qui rédige le règlement intérieur? Est-ce que c'est nous seulement ou nous avec
Alors, l'impératif, c'est que ça contrevienne pas à la loi de 65.
Oui, d'accord.
Après, vous êtes libre de forme de le rédiger de la manière dont vous le souhaitez. Hein.
Oui, mais c'est mieux qu'à vérifier.
Oui, mais c'est ça.
Mais si vous voulez,
vous pouvez nous le
transmettre.
Si vous voulez l'écrire, nous le transmettre. Et puis, donc, on le fera valider en parallèle du règlement de copropriété. Comme ça, ça permettra de vérifier dans son contenu. Est-ce qu'il ne nécessite pas, puisque de toute façon, j'ai bien compris, on ne le publiera pas, on ne publiera pas de dépôt de pièces, que ça serait le matériel, il n'empêchera pas que vous puissiez, vous, derrière, le modifier si vous le souhaitez. Mais qu'on voit déjà sur la base, donc effectivement, qu'il soit, je dirais, cohérent.
Il y a fait référence, mais il n'est pas publié.
Il n'est pas publié,
d'accord.
Par contre, est-ce qu'il sera joint avec le règlement de copropriété à la signature des actes?
Oui.
Oui.
Ah oui, pour pouvoir être opposable.
Qu'il ait quand même une certaine écriture.
Une force exécutoire.
C'est-à-dire qu'en fait, assez vite quand même.
En achetant, chacun s'oblige à respecter les dispositions du règlement intérieur. Oui,
après modifier,
faire évoluer, etc.
Mais au moins en achetant, ça c'est vrai.
Il y a une formulation générale qui dit que, dans l'acte, qui indiquera que le fait d'acheter, on s'oblige à respecter l'ensemble des dispositions applicables à la copropriété, règlement de copropriété, et de division et règlement intérieur. Voilà. Après, c'est remis. Et après, vous le faites évoluer année après année s'il y a besoin.
Et donc, les différents paragraphes de ce règlement intérieur, c'est un, c'est identifier les parties où ça s'applique.
Ah non, ça sera dans le règlement de copropriété.
Ensuite, le premier paragraphe, c'est la répartition des charges, poste par poste.
Modalité de fonctionnement.
Modalité de fonctionnement, plus que de répartition des charges, puisque là, ça, normalement, ça sera dans le.
Oui, parce que la notion de charge, c'est vraiment une notion copro.
Copro, oui. Donc là, ça sera dans les parties communes.
Modalité d'usage.
Oui, répartition des coûts de fonctionnement.
De coûts de fonctionnement.
Charge.
Ouais. Mmh. Entretien et renouvellement du matériel, par exemple.
D'accord.
Je pense qu'effectivement, en termes de sémantique, il vaut mieux éviter d'utiliser la notion de charge parce que sinon.
Oui, ça c'est vraiment un choix juridique facile.
Oui, je ne sais pas dans quelle mesure, mais autant pour bien que les choses soient claires.
Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des. Parce que là, la dimanche, on peut très bien déterminer ça. Ce qui est peut-être plus loin à déterminer, c'est le mode d'usage. Les modes d'usage qui ne sont pas liés au coût. Ça sera peut-être plus long à rôder entre nous. Peut-être on va plutôt partir sur une hypothèse un peu générale et puis ensuite on affinera.
Tout à l'heure, vous fixez quelque chose dans ce règlement médian, et puis après vous pourrez toujours continuer à l'affiner, mais après ça nécessitera pour le modifier. Donc vous êtes tous d'accord.
Si on est dans une copro et qu'on écarte le problème d'association, on a juste besoin d'une assemblée copro. Pour modifier ce règlement intérieur.
Voilà.
On n'a pas de périodicité définie a priori, on peut la faire quand on veut.
Ah, vous pouvez la faire toutes les semaines si vous en voulez.
Non,
peut-être pas quand même.
Alors, pas forcément. Non, mais parce que le règlement intérieur, en tant que document ad hoc du fonctionnement de la copro, pour moi, il est modifiable en assemblée générale.
Oui. D'accord. Oui.
Il est soumis aux règles de fonctionnement de la copropriété.
D'accord.
Donc il parle d'unanimité.
Non, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est la question, on disait, on peut changer le règlement de copropriété quand on veut, le règlement intérieur quand on veut. Non, on ne peut le faire évoluer qu'en assemblée générale des copropriétaires. Après, on peut via la loi de 65 prévoir une tenue d'une assemblée générale extraordinaire, dont l'objet serait de modifier le règlement intérieur. Mais pour moi, le règlement intérieur, c'est un document de la copro. Donc, c'est une assemblée générale des copropriétaires qui peut modifier ce document-là.
Et ça, c'est pas précisé dans le règlement intérieur ou dans le règlement de copro?
Non, plutôt règlement de copro.
C'est comme un copro qui règle ça.
Le règlement de copro va gérer l'ensemble de ce qui peut se passer dans la copro. Et idéalement, faire référence à un potentiel règlement intérieur.
D'accord.
Voilà. Dans un règlement de copropriété, vous avez les règles de tenue des assemblées générales. Pour modifier le règlement intérieur, il faudra le faire à l'occasion d'une assemblée générale, dont les modalités de convocation, etc., sont prévues dans le règlement de copropriété.
Oui, ça c'est déjà.
Au niveau du mode de vote, pour changer le règlement intérieur, c'est l'unanimité ou c'est la majorité?
En termes de majorité?
Oui.
Je crois qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut faire un peu ce qu'on veut.
Pas la majorité qualifiée, double majorité.
Parce que ça dépend du contenu en fait du règlement intérieur. Si ce sont des règles de d'usage ou de courtoisie ou ce qu'on veut, il n'y a pas de majorité particulière. Il faut une majorité simple. Par contre, si on touche à d'autres points qui nécessitent dans la loi de 65 des majorités qualifiées, alors la modification du règlement intérieur devra répondre à ces majorités qualifiées.
Ouais. Okay.
Donc ça dépend un peu des dispositions que vous allez souhaiter.
Si on change le mode de calcul des charges, par
exemple. Pas des charges, parce que des charges, c'est carrément moi j'aurais tendance à considérer que le règlement intérieur peut être modifié à la majorité simple. Parce que par principe, on n'ira pas dans ce document-là toucher au fonctionnement de la copropriété d'une manière générale. Et il vaudrait mieux éviter. Parce que ça veut dire que le document il aurait la même force que le règlement de copropriété et nécessiterait d'être intégré dedans.
Oui, d'accord.
Donc il faut vraiment le dédier à l'usage de ces espaces partagés. Oui. Et donc, par votre conséquence, il sera modifiable à la majorité simple.
Parce que dans la philosophie du groupe, dans l'éthique du groupe, j'allais dire, dans notre charte intérieure, on a écrit qu'on cherchait des fonctionnements par consentement. Mais, par exemple, on pourrait éventuellement écrire dans le règlement intérieur qu'on décide par consentement et à défaut par la majorité prévue dans la loi 65.
Moi je pense que vous pouvez prévoir des majorités renforcées. Mais renvoyez pas la loi de 65. Parce que pour moi, le règlement intérieur ne va pas gérer des choses qui sont prévues par la loi de 65. Donc il faut surtout bien dissocier les choses. Si vous faites un mélange, un jour vous mettrez dans le règlement de copropriété, dans le règlement intérieur, des choses qui doivent être dans le règlement de copropriété. Et cette modification-là sera sans effet. Parce qu'elle n'aura pas respecté la forme du modificatif du règlement de copro. En gros, vous aurez deux documents qui vont venir sur le même plan, et il n'y a que le règlement de copro qui aura une valeur. Si un jour il y en a un qui ne veut pas respecter le règlement intérieur, il pourra, parce qu'il n'est pas, il est plus applicable techniquement.
D'accord.
Donc vraiment, gardez dans l'idée que ça doit être porté uniquement sur l'usage des parties communes spéciales, et que le fonctionnement de principe c'est une majorité simple. Si vous souhaitez une majorité qualifiée, vous êtes libre de le préciser dedans, mais ne renvoyez pas la loi de 65. Hein.
D'accord.
C'est un document purement contractuel entre vous.
D'accord. Oui, c'est quand même important de décider.
C'est pour ça qu'il faut le faire vérifier, et puis tout ce qui ferait rapport à 65, on enlève.
Oui, il faut l'épurer de tout ça. Et par contre, c'est un document qui évolue, même s'il est à côté du règlement de copro, il évolue dans l'Assemblée Générale, parce que vous ne serez pas organisé sous forme associative en le gérant à côté. Ça présenterait peut-être cet avantage, d'avoir une forme d'organisation à côté de la copro pour éviter justement ces interférences. Mais ça mettrait, à mon sens, une lourdeur qui n'est pas nécessaire. Si on garde bien en tête que c'est dissocié, par contre c'est modifié que au moment de l'Assemblée Générale, voilà, c'est tout. C'est une question purement formelle.
Est-ce qu'il y a des règlements types une trame
Vous en trouvez sur internet, vous tapez règlement intérieur, vous aurez des modifications, ça. Et après, vraiment, c'est. L'imagination peut être large là-dessus, mais vous, c'est dédié à des.
Je pense que dans des structures autour de. Qui œuvrent dans l'habitat participatif, ils doivent avoir ce genre de choses, puisque c'est typiquement l'objet sur lequel ils travaillent. Nous, des règlements intérieurs, on en a, mais c'est plus des règlements intérieurs d'immeubles classiques qui n'ont pas cette notion de service. Je pense qu'on aura plus difficilement à y trouver.
Mais classiquement, vous avez quelques règles de police succinctes, et puis après, il y a ce que vous souhaitez en termes de modalité de, d'utilisation.
Juste pour être certain, donc on va travailler dimanche, par exemple sur la, la buanderie, il faut qu'on soit en capacité de vous répondre sur, quand vous dites modalité d'usage, c'est comment les copropriétaires imaginent l'usage de ce lieu, ça il faut l'écrire en une phrase.
Non, parce que ça c'est une question de destination.
Ça c'est... Ouais.
Ça c'est la destination, ça sera pas dans le règlement de copropriété.
Donc qu'est-ce qu'il faudrait que le géomètre y trouve pour être satisfait en fait?
Mais le géomètre, en fait, il va le lire pour regarder s'il n'y a pas des choses qui contreviennent à la loi de 67.
Ben, oui, qu'il vérifie là.
D'accord.
Donc, si vous dites, bah, voilà, nous, on voudrait que les machines à laver elles, ne tournent pas au-delà de 10h le soir. La loi de 65, on s'en fiche. Non, mais si vous dites, bah, le coût de fonctionnement et de renouvellement...
Enfin, ça dépend où il y a l'abri.
Non, mais, ouais, c'est, non, mais je sais pas, j'ai ça. Au jour le jour, je sais pas ce que ça rappelle, ce que je dis. C'est plus ces modalités-là, vraiment des modalités pratiques.
On le met sur une tempo.
Voilà.
Ouais, je dis ça pour les machines, mais c'est presque plutôt pour les parties, enfin la salle.
Ouais, la salle, notamment.
Ouais, en matière de
musique, bruit,
gestion. Ouais.
Ah oui, bien sûr.
Ouais. Là, on est vraiment sur les règlements d'usage. Hein.
Oui. Ouais, parce que vous le voyez vraiment sous l'angle financier.
Ouais.
Il est presque secondaire. Enfin, non, parce que vous avez une vraie problématique que vous souhaitez voir figurer dedans. Et c'est peut-être là où il y a le plus de connexion avec la loi de 65, où il faut être le plus vigilant. Ouais. Et par contre, vous avez tout le reste à prévoir en termes d'usage, à proprement parler. Hein. D'horaire, etc. De propreté.
De réservation.
Ouais, voilà.
Réservation.
Le temps de travail.
Ouais.
J'ai vu dans les règlements de copropriété... interdiction du linge aux fenêtres, par exemple.
Oui.
C'est typiquement du règlement de copropriété.
Non, le règlement de copropriété peut. Il y a quelques paragraphes un peu fourre-tout dans le règlement.
Là,
de copropriété.
Mais il est un peu plus large que.
Bah oui, que spécialement la loi de 65.
Oui.
Le règlement de copro, on profite pour mettre des choses qui
C'est bonne un règlement intérieur. C'était
ouais, mais c'est plus de l'essence du règlement intérieur, ça.
Ouais.
Oui, absolu.
Oui, voilà.
Mais
c'est possible.
C'est oui. Qui peut le plus, peut le moins. Le minimum, c'est la loi de 65 dans le règlement de copro. Après,
s'il y a
la loi n'interdit pas de linge aux fenêtres.
Bah, dans l'absolu. Non. Sauf si un voisin de la copro serait pas content. Et que ça contrevient aux bonnes mœurs ou autre.
Voilà.
Bon.
Bien.
On peut le faire.
Oui.
Alors là-dessus, je pense que c'est
sur ce sujet. Voilà. Sur les dossiers, vous avez pu avancer un petit peu, non? Parce que moi, j'ai vu donc effectivement une seule candidature effectivement qui est redescendue, celle de Monsieur Mme Leroy. Hein, c'est ça. Hein. Hein, donc,
est-ce que vous avez reçu une demande de Mme Dulafay?
J'ai vu un mail passer, mais j'ai pas vu de dossier pour l'instant. Donc c'est pour ça que je.
Alors, je sais pas ce qu'elle. Je pense qu'elle a dû vous écrire pour demander un dossier.
Oui, pour demander un dossier.
Elle est passée
chercher. Je l'ai pas vu. Mais comme j'ai pas revu ma collaboratrice, effectivement, entre temps, je reste prudent. J'ai vu celui de monsieur et madame Leroy.
Elle a vu madame.
Et donc. Que je suis en train de regarder et j'ai vu le nom transparaître de Dieu l'a fait, mais le dossier en lui-même,
j'ai. Elle hésite entre deux appartements.
Hein? Oui, bon, elle serait logiquement éligible que c'est là.
Oui.
Du point de vue financier, ça ne semble pas poser de
problème.
De problème particulier. Sinon, pour les dossiers sur lesquels le crédit foncier.
Oui.
Avait.
J'ai reçu.
J'ai eu des refus. Oui. Pour tout le monde, il va y avoir une attestation de
l'occupant. On peut avoir des attestations dedans. J'ai déjà reçu l'attestation pour monsieur Cazin.
Oui. Voilà. Très bien ça.
Donc ça va être le cas pour les autres.
D'accord.
Ils m'ont fourni des attestations de banque qui
en disent que ça s'arrange alors.
Du coup, la famille Cazin, ils vont pouvoir signer aussi.
Donc eux, effectivement, j'ai reçu l'attestation là, donc c'était mardi, je crois. Non, pas mardi, mercredi. Mercredi, et donc, c'est pour pouvoir relancer le dossier.
Donc là, actuellement, il ne reste plus que deux appartements.
Il y a ça, deux appartements, oui. Et il reste, oui, il resterait, oui, deux appartements et les deux situations que je dois voir de moi, de Bruxelles.
Voilà.
C'est ces deux-là. Et ouais, tous les autres également, oui, parce que monsieur l'abbé aussi, j'attendais aussi les éléments. Comment ?
Et madame
Ancelin. Alors madame Ancelin, ah oui, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Donc c'est bon aussi de votre côté, côté bancaire.
Bah, ouais. J'attends encore des réponses.
D'accord.
Je fais des démarches.
Bon.
Au mois de mai, les banquiers ne sont pas très disponibles.
Pas de voilà. Commercial des banquiers.
C'est pas de connaissance. Pas de connaissance.
Ça redémarre en septembre.
Oh, non, quand même pas.
Allez, en août. On est médisant.
Bien,
ah, mais ouais,
ça c'est bon.
Vous faites quelque chose.
Oui. Donc, de côté de nous, il n'y a pas d'information particulière. Donc. Ouais, qu'on puisse avancer assez rapidement. Donc nous on voit, je vois assez rapidement également notre homologue Didier Fidès, justement, pour qu'il puisse avancer parallèlement sur le dossier de M. Pitreau. Et puis.